Champagnac, parricide causé par la monomanie du meurtre. Jean Fort vivait avec sa mère au village des Causardières, canton de La Rochefoucauld. Dès son enfance, ce jeune homme avait montré un caractère sombre et taciturne. Cette malheureuse disposition d'esprit avait sans doute pris sa source dans une infirmité grave dont il était affligé. Son visage s'était couvert d'une lèpre envenimée qui, faisant chaque jour de nouveaux progrès, avait fini par devenir un ulcère dégoûtant et horrible. Son nez, rongé par le mal, avait entièrement disparu. Ses lèvres, à moitié dévorées, ne lui permettaient plus de fermer la bouche. Et ses traits étaient tellement défigurés qu'il était difficile d'imaginer rien de plus hideux. À mesure que ce mal étendait ses ravages, Jean Fort devint querelleur, emporté, furieux. Le maire de sa commune le fit placer à l'hospice de La Rochefoucauld. Mais Jean Fort se fut bientôt chassé, à raison de sa mauvaise conduite. Un jour, s'étant approché du lit d'une mourante, il fit à cette malheureuse d'infâme proposition. Les pauvres, la supérieure et les dames de l'établissement étaient l'objet de ces insultes journalières. Ayant été forcé, par suite de cette expulsion, de rentrer à la maison paternelle, Jean Fort, peu touché des soins que sa mère lui prodiguait, se livra à son égard aux emportements les plus condamnables. Vers le commencement de juin 1828, on le vit, la prenant à la gorge d'une main, la frappait de l'autre avec un bâton. Et dans le moment où l'on s'empressait d'arrêter les effets de sa frénésie, Ford fit entendre ces horribles paroles « Si je ne te tue pas aujourd'hui, je te tuerai demain !» Vers le même temps, plusieurs personnes le virent s'avancer vers un enfant à qui il disait « Je te tuerai, coquin, parce que lorsque tu seras grand, tu te moquerais de moi !» Ces épreuves de violence et d'abrutissement étaient d'un bien sinistre augure. Pourtant, on était loin d'en prévoir les épouvantables conséquences. Le 18 juin, la veuve Forte disparut tout à coup de son domicile. La veille encore, ses voisins l'y avaient aperçu. Le même jour, Fort quitte la maison et va dans les campagnes voisines pour demander l'aumône, suivant son habitude. Il rencontre la femme Touchet qui, après lui avoir donné un morceau de pain, lui dit « Eh bien, mon pauvre Jean, vous n'irrissez donc pas ?»« Je guérirai bien, dit-il, car je veux tuer toutes les Limousins et tous les gens de chez Kerouac. » « Et pourquoi voulez-vous tuer tant de monde ?»« Eux, tuer les gens de chez Kerouac, parce qu'ils sont trop épais et qu'il faut les éclaircir. Et les autres, parce qu'ils sont trop honnêtes et qu'ils sont cause que j'ai tué ma mère. »« Vous avez tué votre mère ? Malheureux et comment ?»« Je l'ai tué avec un poing, mais je m'en vais. Je la placerai sur de la bruyère bien sèche, je la mettrai dans une bière et je l'enterrerai. » Le 19 juin, à 2 heures de l'après-midi, la femme Blanchier, l'une des voisines de la veuve Fort, vit le fils de cette femme entrer dans son jardin avec une bêche et une pelle de bois. Il se mit à tracer une fosse et bientôt commença à la creuser. « Que veux-tu faire ? » lui demanda la femme Blanchier. « C'est une fosse pour enterrer ma mère. »«
Comment ?» ajoute la voisine. « Ta mère est morte ?»«
Oui, je l'ai tuée. Si vous voulez pas le croire, allez la voir. » La femme ne prit pas d'abord ses propos au sérieux. Elle s'imagina que la veuve Fort travaillait à la journée pour quelques propriétaires du voisinage. Cependant, préoccupée des étranges paroles de Fort, elle en parla le soir à son mari. Celui-ci en conçut quelque inquiétude et les fit partager à sa femme. Ils se couchèrent, mais il fut impossible de fermer l'œil. Ils se levèrent alors et allèrent avertir d'autres voisins. Jean Fort était toujours occupé à creuser la fosse. La femme Blanchet ne put plus y tenir. Glacée d'effroi, vers minuit, elle lui cria « Eh, va donc te coucher !» Et Fort répondit froidement « Mais allez-vous coucher vous-même !»
je travaille pas sur votre propriété. » Quand le jour parut, tout le village était en émoi. Le maire arriva bientôt sur les lieux. Il s'approcha de la fosse et vit donc sans un grand étonnement, fort étendu dans le trou qu'il avait creusé et plongé dans un profond sommeil. Le maire continua son enquête. Il entra dans la maison. D'abord, il fut arrêté par une odeur fétide qui le suffoquait. Et bientôt, un horrible spectacle s'offrit à ses regards. C'était le cadavre de la veuve Faure, placé sur une chaise. Son visage et ses vêtements étaient couverts d'un sang noir. Sa coiffe, qui était à ses pieds, laissait apercevoir sur le crâne des mutilations si graves que des parcelles de la cervelle étaient sorties de leur enveloppe. Après avoir rédigé son procès-verbal, le maire revint dans le jardin. Faure avait repris sa bêche et continuait son travail. « Et que fais-tu là ?» lui dit-il. « Je creuse votre fosse, » répondit Faure. « Très malheureux, je ne suis pas mort. »« C'est égal, monsieur le maire, vous avez pris soin de mon enfance, il faut bien que je fasse quelque chose pour vous. » « Mais où est ta mère ? Elle est morte. »« Mais qui l'a tuée ? Mais c'est moi. »« Et comment ? Ben avec cette tranche. » Et en même temps, l'insensé soulevait et montrait l'instrument encore ensanglanté. Lors de l'autopsie du cadavre, on remarqua que le crâne avait été brisé par un instrument tranchant avec lequel 6 coups avaient été portés. On voyait de plus sur le sein de la victime 2 plaies profondes, faite à l'aide d'un couteau qui avait dû y être plongé 2 fois, alors que le corps était déjà inanimé. Le maire fit sortir Jean Faure de la fosse. Il en constata la dimension, puis rentra dans la chambre et vit cet homme qui était occupé à passer des bas blancs dans les jambes de sa mère, raidi par la mort. Cependant, les gendarmes venaient de cerner la maison et l'un d'eux y était entré. Faure le regarda sans effroi et continua de vêtir la victime. « Et que faites-vous là ? » dit le gendarme. « Voyez-vous pas ? » répondit Faure. « Que je l'ensevelis ?» Le gendarme revint plusieurs fois et trouva toujours Faure livré à la même occupation. Il était enfin parvenu à coudre un drap blanc autour du cadavre de sa mère. Jean Faure fut arrêté et la procédure s'instruisit devant le tribunal d'Angoulême. Dans ses premiers interrogatoires, le prévenu nia que la veuve Faure fût sa mère. Mais plus tard, il en convint et prétendit que ce n'était pas lui qui l'avait assassiné, que ses voisins l'avaient sans doute tué. Il ajouta qu'il avait quitté sa demeure dès le 16 juin et qu'il n'y était revenu que le 19 dans la journée. Enfin, dans un dernier interrogatoire, il tint un langage incohérent et finit par dire en jurant au juge d'instruction qu'il se moquait de la vie et qu'on ne le tuerait pas 2 fois. Les habitants des Caussardières n'avaient jamais remarqué chez Jean Faure des signes d'aliénation mentale. Il était, suivant leurs expressions, plus méchant que fou. Le maire l'avait eu à son service depuis l'âge de 12 ans jusqu'à 13, et loin d'apercevoir en lui le moindre signe de démence, il lui avait reconnu une rare intelligence dans la manière dont il s'acquittait des commissions qui lui étaient confiées. Le médecin de l'hospice avait bien remarqué dans ses traits un égarement qu'il croyait devoir attribuer à la violence de son mal, mais jamais il n'avait pensé que cet air égaré provint d'un dérangement d'esprit. Jean Faure fut traduit dans la première quinzaine d'août devant la cour d'assises de la Charente. Son interrogatoire fut de nature à corroborer les soupçons d'aliénation mentale. Nous allons en transcrire quelques fragments. Le président. Jean Faure, vous êtes accusé d'un crime épouvantable. Dites, est-ce vous qui avez tué votre mère ? L'accusé, sans se lever. Non. Vous l'avez cependant dit à plusieurs témoins. Levez-vous et répondez. L'accusé, se levant tout à coup et faisant entendre une voix effrayante. Oui, je l'ai dit. Vous l'avez donc frappé d'une manière horrible. « Mais comment elle prouve ?» Puis il murmura des blasphèmes. Et pourquoi avez-vous tué votre mère ?
L'accusé, avec l'accent de la colère.
Mais pourquoi me faisait-elle enrager ? Si c'était pas fait, je ferais encore.
Mouvement d'horreur dans l'assemblée. Après cet interrogatoire, on procéda à l'audition des témoins dont les dépositions confirmèrent tous les faits que nous avons relatés. L'accusation fut soutenue avec véhémence par le ministère public qui crut devoir repousser la question d'aliénation mentale. Le défenseur de Jean Faure, M. Aubin Durand, s'attacha au contraire à établir le fait de démence et le fit d'une manière remarquable. Sa chaleureuse improvisation trouva de vives sympathies parmi les membres du jury, car après une demi-heure de délibération, il rendit une décision ainsi conçue. Non, l'accusé n'est pas coupable, parce qu'il était en état de démence au moment de l'action. Malgré ce verdict d'acquittement, Faure fut reconduit en prison sur la réquisition du ministère public, qui dut s'occuper des moyens de faire prononcer l'interdiction de ce malheureux.